petits amis, collègues, frères de m'avoir aidé. Le texte était long ce matin, n'est-ce pas? Mais on finit aujourd'hui avec le texte du Matthieu qui nous raconte l'histoire de la naissance de Jésus. Et Matthieu, il s'appuie sur quatre grandes prophéties, n'est-ce pas? On a vu Ésaïe, on a vu Osée, on a vu Michée, et on voit aujourd'hui Jérémie. C'est tout ce que Matthieu fait, c'est d'expliquer à ses connationaux, aux Juifs, que la naissance de Jésus, ou la vie de Jésus, ou Jésus lui-même, c'est quelqu'un qui a été le sujet principal de tous les prophètes. Dieu a voulu 600, 700, 800 ans avant qu'il arrive, annoncer qu'il y aura quelqu'un qui viendra et que les choses vont changer. Aujourd'hui, on part de ça, de ce que Jérémie nous a raconté dans ce chapitre 31. C'est un Jérémie, ce n'est pas un prophète facile à lire, n'est-ce pas? Non, je ne le lis jamais avec grand plaisir. Il y a tellement de tristesse. Et ce n'est pas pour rien que son deuxième livre s'appelle comment? Lamentation. Il est triste, mais ce chapitre 31 est complètement différent. C'est comme la nuit et le jour. Chapitre 31, il y a plein de joie. C'est le chapitre qui change complètement les donnes, n'est-ce pas, ce chapitre-là, parce qu'il nous raconte qu'il y aura un jour où les choses changeront, n'est-ce pas? J'échangerai leur tristesse en allégresse. Il va tout changer. Pousser des cris de joie, il dit. Ça, c'est la thème principale. Il y aura un jour où les choses changeront. Ça, c'est l'objectif de ce chapitre 31. Mais avant tout, je veux poser une question. Combien parmi vous avez-vous déjà vécu dans un pays en dictature? Disons Duvalier, disons Nguesso ou d'autres. C'est ça. Vous connaissez un petit peu ces personnages qui se sont mis devant pour faire que toutes les choses aillent dans leur direction. C'est l'estime de soi qui déborde, n'est-ce pas? Eux, ils sont les plus extraordinaires. Mais je dirais que plus que tous ces dictateurs que vous avez connus, plus que Staline et d'autres, Ceausescu ou d'autres, ce monsieur-là qu'on nous a raconté l'histoire, Hérode le Grand, c'était un dictateur encore plus difficile et plus sanguinaire. On l'appelle quand même Hérode le Grand. Oh, croyez-moi, il n'y a pas beaucoup des grands chefs d'État qui sont appelés les Grands. Dans toute l'histoire de mon pays, il y a un seul, Stéphane le Grand, Étienne le Grand. Mais il n'y en a pas d'autres. Celui-là, il a fait des grandes choses. Dans l'histoire de la France, il n'y en a pas beaucoup non plus. Moi, j'ai Alexandre. Oui, qu'est-ce que vous voulez, Alexandre le Grand, qui a changé le monde. Effectivement, il y a Charlemagne, Carolus Magnus. On ne l'appelle pas le Grand. Non, c'est des personnages qui ont resté dans l'histoire avec ce surnom, le Grand. Et pourtant, Hérode, il est resté dans l'histoire avec ce surnom-là. Hérode le Grand. Il a fait des grandes choses, mais avec quel sacrifice? Oui, dans sa jeunesse, il a construit le centre-ville de la troisième grande ville de l'Empire, Antioche. Il est resté, c'est ce qu'il a fait parce qu'il était gouverneur de la Syrie dans sa jeunesse, il est resté quand même, voilà l'exemple à faire. Il a construit des choses partout dans les grandes villes autour. Il a reconstruit Jérusalem, n'est-ce pas? Il a construit une quarantaine des grandes forteresses autour d'Israël. C'est un grand personnage. Il a su tirer les ficelles afin qu'il puisse être toujours là. Il a marié une fille qui devrait, bah, c'était une Asmodienne qui avait droit au trône. Donc, de cette manière-là, il était accepté par le Sénat romain. Il était à Rome et le Sénat l'a mis comme roi en Israël. Il a tiré les ficelles, c'était à l'époque de Cléopâtre, César, Antoine, tous ces gens-là, pour qu'il puisse avoir l'armée romaine toujours de son côté. Il a réussi à vaincre tous ses ennemis et se mettre sur le trône. Mais à la fin de sa vie, ah, c'est la folie, c'est la paranoïa. Il commence à voir juste des gens qui veulent prendre sa place. Mais la folie allait jusqu'à là où il touche sa famille. Même Staline n'a pas fait ça. Et pourtant, il était complètement débile, celui-là. Même Hitler n'a pas touché à sa femme. Et lui, il tue la seule femme qu'il a aimée de sa vie, Mariam. Il va tuer ses trois grands garçons parce qu'il a l'impression qu'ils vont prendre sa place. Il va tuer sa belle-mère, il va tuer son beau-frère parce qu'ils sont de la descendance asmodéenne, ceux qui viennent de Maccabée, ceux qui sont normalement sur le trône d'Israël. Il a peur que quelqu'un va prendre sa place. Il va tuer, il va mettre dans un stade tous ses leaders de son armée. Il va les tous massacrer parce qu'il a l'impression qu'on va prendre sa place. Mais celui-là, il a même pensé, il n'y a personne qui m'aime dans ce pays. Alors comment faire, parce que je m'approche de la mort, que tout le pays tombe en deuil. Quand je serai sur le lit de la mort, je veux tuer tous les leaders d'Israël ou tous les pharisiens, afin qu'ils puissent avoir l'occasion d'être un pays en deuil. Mais pourquoi je vous raconte ça? Parce que l'histoire que nous avons ici, n'est-ce pas, cette histoire de ces petits-enfants, ces enfants jusqu'à 2 ans qui sont tués autour de Jérusalem, Bethléem, c'est juste à côté. Ça paraît invraisemblable, n'est-ce pas? Mais il y a plein d'histoires de la Bible qui paraissaient comme ça. Ah, pendant un certain temps, là, quand la critique allemande a commencé à critiquer la Bible, ils ont dit, bah, Ninive, c'est une invention des chrétiens, ça n'a jamais existé. Moi, je me rappelle, on parlait de Ponce Pilate. Mais c'est qui celui-là? Il n'a jamais existé, là. C'est juste la Bible qui raconte cette histoire. Et pourtant, on l'a vu, ils ont découvert, pas depuis très très longtemps, ils ont découvert une inscription à Césarée où Ponce Pilate fait un cadeau, un magnifique palais à l'empereur, à Tibère. Mais on dit toujours, la Bible, c'est des fables. La Bible raconte n'importe quoi. C'est pour ça que je vous dis cette histoire de Hérode le Grand. Quand les autres écrivains, ils ont écrit, je pense que quelques enfants en bas des 2 ans, ça veut rien dire par rapport à ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, il était dépassé tout ce qu'on n'a jamais compris de quelqu'un qui va tout tuer autour de lui pour rester sur le trône. Donc l'histoire, si on regarde ce monsieur-là, donc qui va tuer quelques enfants parce qu'il a peur qu'ils vont prendre sa place, c'est presque rien. Et ça tombe parfaitement dans l'esprit de ce monsieur. Quelqu'un qui avait peur que quelqu'un enlève sa place. Donc on le voit ici, dans cette histoire, non, c'est pas Jésus. Il est déjà né. Les mages sont déjà arrivés. Et comme ils sont bien fait attentionnés par, par les anges, par le Seigneur dans un rêve, ils ne vont pas retourner chez Hérode, donc ils vont retourner chez leur pays tranquillement, et Hérode sera extrêmement fâché. Fâché. Comment il s'est permis de ne pas venir me voir? c'est qu'il y a quelque chose de véritable dedans. Alors il a envoyé son armée pour tuer tous les enfants qui sont en bas des 2 ans, pour s'assurer. Certains disent que juste à Bethléem, qui devrait être au max quelques centaines d'habitants. Donc combien d'enfants à 2 ans? Il y avait peut-être une vingtaine, disons. Mais je ne pense pas qu'il y ait juste Bethléem. Il a tué tout dans ce coin-là. Pour s'assurer. Il ne faisait pas les choses juste un petit peu là. Ah oui, juste à Bethléem peut-être. Mais il a voulu bien s'assurer. Donc la tristesse est là. Et pourquoi? Il y a quelque chose qui dérange, n'est-ce pas? Pourquoi on parle de Rachel? Pourquoi de Rachel? Parce que le tombeau de Rachel se trouve là, à Rama, à Bethléem, dans ces régions-là. Et puis aussi parce que autour de Jérusalem sont, pas nécessairement à Bethléem, mais à d'autres villages, certainement, sont les descendants directs de Rachel. Parce que c'est le tribu de Benjamin qui est là. Donc, c'est normal que, d'une certaine manière, aussi on parle de Jacob et Rachel, n'est-ce pas, comme les parents du peuple d'Israël. Donc, on peut considérer ça comme ça aussi. La mère qui souffre pour sa descendance, pour ceux qui pleurent, pour ceux qui ne peuvent pas être consolés, parce qu'il y a tellement de tristesse. L'armée est venue, là, ils ont tué des petits garçons. J'ai une question aussi. Est-ce que vous vous rappelez? Il y a une histoire qui est semblable. Ça se passe, on n'a parlé pas depuis très longtemps de ça, en Exode chapitre 1 et 2. Le peuple d'Israël est parti retrouver Joseph. Leur frère qui se trouve à Égypte. Il est la main droite du pharaon. Ils sont bien reçus. Mais avec le temps, le peuple grandit. Ils ont beaucoup d'enfants. Et arrive un pharaon qui n'a pas connu Joseph, n'est-ce pas? Il est fâché de ce qui se passe. Il y a de plus en plus d'enfants. Ils vont arriver à nous dépasser. On est en danger de disparaître comme nation. Les autres seront plus nombreux que nous. Ils vont prendre notre place. On va perdre notre pays. Parce que les Juifs deviendront plus nombreux. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Il parle avec le sage-femme. Écoutez, quand ça sera un garçon, il faut les tuer. Et les sages-femmes viennent chez Pharaon et disent, mais écoute, les femmes des Juifs ne sont pas comme les Égyptiens. Ils sont vigoureuses, là. Avant qu'on arrive, bah, voilà, ils sont accouchés déjà. Donc, ça ne sert à rien de nous accuser. Nous n'arrivons pas. Donc, Dieu fait du bien aux sages-femmes, n'est-ce pas? C'est comme ça l'histoire nous raconte. Mais Pharaon n'est pas content non plus. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Si elles ne font pas le travail, je veux envoyer l'armée. Et l'armée fait quoi? Fait tuer toutes les nouveau-nés mâles. Il y a une femme, une jeune femme qui marie un homme. Ils sont tous les deux des tribus des Lévi. Ils auront un garçon. Elle a réussi à le cacher pendant 3 mois. Mais elle ne peut plus. C'est trop risqué. Alors il fait quoi? Il va construire une petite sorte d'embarcation, on va mettre sous la rivière. Et puis la femme de Pharaon va le trouver. Ça ressemble beaucoup l'histoire de Jésus avec l'histoire de Moïse. C'est qui Moïse? Est-ce qu'il est important Moïse? Oui. C'est lui qui sortira le peuple, c'est lui qui va donner à travers Dieu, bien sûr, l'alliance. C'est la première alliance, ça vient avec Moïse. Et la deuxième alliance, c'est Jésus. C'est intéressant, tous les deux doivent être sauvés en extrémis parce qu'on veut s'assurer qu'ils vont être morts. Il y a un plan des dieux dedans. Il y a un plan des dieux qui ne peut pas être détruit. C'est impossible de détruire le plan de Dieu. J'ai beaucoup aimé le témoignage de Jessie dans ce sens-là. Oh, Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour nos vies. Si on est dans le plan de Dieu, ne me dites pas qu'il y aura quelqu'un qui pourra empêcher ses plans pour arriver. C'est impossible. Même s'il y aura des sanguinaires comme Hérode, même s'il y aura des sanguinaires comme ce pharaon, on ne peut pas, celui que Dieu a besoin pour faire quelque chose dans sa vie, il restera là. On ne pourra pas le toucher. Et c'est ça l'histoire de Jésus. On a voulu, le force de mal, ils ont voulu finir avec lui. C'était l'exponent de cette force de mal, Hérode. Ils ont voulu finir avec lui. Pensez-vous que le méchant était content de l'arrivée de Christ dans le monde? Ben non, certainement pas. On a essayé de toute façon à le tuer, à l'enlever. Pendant toute sa vie, c'est raconté dans les évangiles, n'est-ce pas? On a voulu prendre Jésus, le faire tuer. Mais on n'arrivait pas parce que l'heure n'est pas arrivée. Il passait à travers, il le laissait là-bas. C'était sur la montagne de précipice, je me rappelle très bien. Ils étaient là pour le précipiter, pour finir avec ce fou. Qui c'est quoi celui-là? On le connaît très bien, c'est le fils de Joseph et de Marie, là. C'est quoi? On connaît ses frères, il a grandi avec nous, mais non, c'est quoi un fou religieux, là? Finissons avec lui. Et combien de fois on a les scribes, les pharisiens, les grands leaders, ils ont voulu le prendre et puis le faire tuer. On n'arrive pas parce que Dieu a un plan. Un plan que Jésus puisse arriver sur la croix et payer comme il faut pour mon péché et pour le tien aussi. C'était le plan de Dieu. Dans Jérémie 31, il y a quelque chose que j'ai particulièrement aimé. C'est un long chapitre, n'est-ce pas? Mais regardez le verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime avec un amour éternel. Comment nous aimons? Comment l'homme aime? Il aime s'il y a quelqu'un qui lui paraît beau, une belle femme, un beau garçon, je ne sais pas, s'il est une belle présence, il aime. S'il te fait du bien, tu l'aimes. Mais s'il te fait du mal, s'il est méchant, s'il va faire tout ce qu'il peut contre toi, est-ce que tu vas l'aimer? Dieu nous dit qu'il nous aime avec un amour éternel. Ça veut dire quoi ça? Qu'avant la création de l'homme, Dieu nous a aimés. Est-ce qu'il n'a pas su à quoi il est bon l'homme? Est-ce qu'il n'a pas su qu'il ne va jamais écouter son Dieu, qu'il ne va jamais respecter, qu'il va toujours tourner son dos, qu'il va toujours vouloir faire ce qui lui plaît? Est-ce qu'il n'a pas su? Bien sûr qu'il a su. Et malgré ça, la parole de Dieu nous dit qu'il nous a aimés avec un amour éternel, de l'éternité vers l'éternité. C'est ça l'amour de Dieu. Nous, on a toutes sortes d'amour, des définitions de l'amour. Même, c'est plein de définitions qui viennent du grec. Un amour, n'est-ce pas, filial, un amour pour les enfants, pour la famille, pour les nôtres, un amour pour quelqu'un, héros, qui nous plaît. Mais même, on parle d'un amour agapé, mais Dieu... Dieu, l'amour, c'est éternel. Même il y a une autre définition de Dieu. Dieu égale amour. On ne dit pas que l'amour de Dieu est comme Dieu lui-même. C'est l'amour. Cet amour qui est éternel comme Dieu est éternel. Et cet amour qu'il a bien sûr connu exactement qu'est-ce qu'on va faire. Mais il a accepté d'avant la création de venir dans le monde et le plan de Dieu s'accomplit. Il a accepté effectivement venir ici. Dans Philippiens 2, 7, 8, on dit, mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, s'est rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même. Jusqu'à où voulez-vous qu'il soit humilié? Moi, j'ai pensé, on a regardé hier soir le film Nativity Story, la Nativité, on a vu tout un petit peu, bon, chacun essaie de donner sa version sur la naissance de Jésus, n'est-ce pas? C'est plus ou moins réel, plus ou moins fidèle à l'Écriture, mais bon, tu as l'occasion de réfléchir. Il a dû naître, sa mère a dû accoucher dans des conditions complètement non hygiéniques, dans une crèche où il y a des pailles, où il n'y a pas ni la mère, ni sa sœur, ni sa tante, ni personne pour l'aider. Jusqu'à où voulez-vous que quelqu'un s'abaisse? Il a dû s'enfuir, n'est-ce pas? Partir comme un réfugié. Il a dû se réfugier en Égypte. Mais il n'avait personne en Égypte. Et ce n'était même pas les conditions d'aujourd'hui. Il a dû s'enfuir pendant la nuit. C'est comme ça le texte que nous a été lu dans Matthieu 2 nous dit. Pendant la nuit, il a eu le rêve et la nuit même, il prend sa femme, il prend son enfant. Il n'avait pas grand-chose à ramener avec lui, n'est-ce pas? Il était en voyage. Il est prêt et puis s'en va en Égypte. Ils vont rester un certain temps là-bas. Il va retourner chez lui. C'est ça le Fils de Dieu, n'est-ce pas? C'est extrêmement dur ce qu'on voit. Il parle de lui-même dans ce terme. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Comment quelqu'un peut s'abaisser tant? Comment quelqu'un... Il avait quoi? Une chemise, n'est-ce pas? Il n'avait pas d'autre chose. S'il faisait froid la nuit et pendant l'hiver, il peut arriver qu'il neige en Israël. Il n'avait pas grand-chose. Il n'avait pas une maison. Souvent, on restait dehors, priait. Il faisait très chaud, il avait chaud. Il faisait très froid, il avait froid. Souvent, il n'avait rien à manger. Il a souffert, pas comme nous. Ne me dites pas que vous avez la vie que lui a eue. Ne me dites pas. Il n'y a personne parmi nous qui peut se comparer. Mais il a fait de même manière que n'importe qui, même le plus pauvre, le plus persécuté de ce monde, peut s'identifier avec Jésus. De plus pauvre au plus riche, tout le monde peut s'identifier à lui. Parce que Jésus a accepté tout ça pour nous. C'est ça qu'il a fait. C'est ça l'amour éternel de Christ, n'est-ce pas? Il est fantastique cet amour éternel. Mais il y a quand même une promission fantastique qu'il va prendre soin de nous, n'est-ce pas? Il va être attentif à notre avenir. Il va être attentif à notre vie. Il y a Jamais, il ne nous a jamais dit qu'on va vivre parfaitement, qu'on n'aura pas des souffrances. Est-ce qu'il n'a pas eu des souffrances? Est-ce qu'il n'a pas eu des problèmes? Est-ce qu'il n'a pas dû endurer tant de choses? Il ne nous a jamais promis ça. Mais il nous a promis qu'il sera toujours avec nous. Il nous a promis que le plan de Dieu va s'accomplir aussi dans ma vie. Aussi que dans sa vie, le plan de Dieu va s'accomplir. Même s'il y aura des difficultés, il nous a promis, comme le psaume 91 dit, que 1 000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. Je ne veux même pas continuer tous ces psaumes-là. Il est extraordinaire. Il raconte de quelle manière Dieu est là. Dieu était là avec Christ. Parce qu'avant, on parle de lui dans ces psaumes. C'est lui le sujet principal de l'évangile. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous non plus. Mais c'est Christ, le sujet principal de l'évangile. Mais ce que a été pour lui va être pour tous ses frères, toutes ses sœurs. On aura la même attention du Père envers nous. Ça, c'est extraordinaire dans ce qu'il nous raconte ici. C'est cette histoire de Moïse, n'est-ce pas? Qui a été protégé, et l'histoire de Jésus, qui reprend un petit peu de la même manière c'est que celui qui va mettre en place la nouvelle alliance est là. Parce que si il y a un plan pour nous sauver, ce plan-là, il est différent de la première alliance. La première alliance qui a été donnée à Moïse pour le peuple a été violée tout de suite. On n'avait pas besoin d'arriver dans la terre promise que l'alliance a été violée. On n'avait pas besoin d'énormément du temps, de siècles, de millénaires pour qu'on considère ça tout de suite, ce n'est pas intéressant. Tout de suite, quand l'alliance est donnée, qu'est-ce qu'on fait les amis et on prie Aaron avec les autres? Un veau d'or. On n'avait pas besoin de rien. On l'a violée tout de suite, cette alliance. L'homme en soi, il est comme ça. Mais il y a une extraordinaire promesse dans ce chapitre, un des plus extraordinaires, le plus beau de l'Ancien Testament, Jérémie 31. Quelle promesse fantastique il y en a dedans. Jérémie 31 nous dit quelque chose. Verset 32, 33 par la suite. Non, comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Je mettrai la loi dans leur cœur. Il y a un grand changement qui se fait ici. Un grand changement qui se fait et qui produit quelque chose de tout à fait extraordinaire. Toujours dans Jérémie 31, verset 19, il dit, après m'être détourné, j'ai éprouvé du repenti. C'est le peuple qui dit ça. J'ai trouvé du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, j'ai frappé sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car j'éprouve l'opprobre de ma jeunesse. Dans les deux témoignages qu'on a eus ce matin, dans le mien aussi, dans le vôtre, il y a ça. Au moment où on a rencontré Christ, au moment où il a changé mon cœur. Mon cœur, c'est un cœur de pierre, qui ne reconnaissait rien, qui acceptait rien. Mais quand il a été changé, parce que l'Esprit de Dieu travaille comme juste lui travaille. Et quand il change mon cœur, je ne peux pas m'arrêter de pleurer. Exactement ce que ma sœur disait. Exactement ce que j'ai ressenti quand j'étais touché. J'ai pleuré parce que je me voyais comme j'étais. À ce moment-là, tu te vois devant Dieu et tu commences à te repentir ce que j'étais et pourquoi Dieu s'approchait de moi. Et que Dieu m'a touché. Et mon cœur qui... Ah ben oui, moi je pleure pas, n'est-ce pas? Moi, oui, ça ne va pas là. Je suis un homme, n'est-ce pas? Un homme ne pleure pas. Mais quand tu es touché, j'adore écouter des témoignages. Et c'est toujours ça. Des hommes qui n'ont jamais pleuré, qui étaient parfois des guerriers durs, quand ils sont touchés, ils commencent à pleurer. Devant Dieu, tu ne peux pas. Ton cœur n'est plus de pierre. Le cœur a été changé. Mon être entier est changé par celui qui est venu s'humilier. On ne peut pas être pareil. C'est un changement. C'est pour ça que Jésus est venu. Il a accepté toutes les humiliations, toutes, parce qu'il a voulu pouvoir toucher n'importe qui sur la terre. Même celui qui est le plus pauvre, même celui qui a plus de problèmes, toucher tous pour les attirer vers lui, les attirer vers le Père. C'est l'objectif de Noël. Noël, c'est la fête de la joie, n'est-ce pas? Regardez ce chapitre 31 de Jérémie. C'est la joie dedans. C'est l'allégresse. Poussez de cris de joie. Parce que Dieu a considéré bon de toute l'éternité s'abaisser vers moi, venir sur la terre, vivre comme nous, même pire que nous. On ne vit jamais. Aucun d'entre nous n'a jamais vécu ça. Parce qu'il a voulu nous attirer à lui. Parce qu'il a voulu s'identifier avec nous et nous amener avec lui. Il a porté tous mes fardeaux, toutes mes difficultés sur la croix. Mais pas seulement qu'il les a portés là-bas. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il nous a promis à tous que lui, il est le premier, mais tous ceux qui vont suivre ce chemin et qui vont accepter que leurs péchés soient amenés par Christ sur la croix, auront le même sort. Ils vont tous ressusciter. C'est la magnifique promission. Noël, c'est une fête de joie. Ça mérite d'être heureux. Ça mérite de pousser de cris de joie parce que c'est lui qui nous a aimés de toute l'éternité est venu ici dans ce monde-là. Pour vivre nos vies et pour nous sauver. Amen.